BFM Business Partenaire, le club Média RH avec Triangle Intérim. 250 agences pour garantir vos recrutements.
BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp.
Bonjour et bienvenue au club Média RH 2023, tous nos vœux pour cette nouvelle année. On est dedans, hein. Vraiment, bonne santé à vous tous et j'espère que vos projets vont se réaliser. Nos invités aujourd'hui, des postes à pourvoir, bien sûr, avec d'abord Sébastien Bécard, qui est le président de Gymlib. Gymlib, qui engage des salariés dans un mode de vie sain, ça tombe bien après les fêtes, et actif pour avec un abonnement unique et l'accès à plus de 4000 salles de sport. Vous allez voir, il dispose de 30 postes à pourvoir. En deuxième position, deuxième séquence découverte avec Nadège Joyeux, notre experte RH, qui a pour invité un auteur, Marion Dariotor, qui vient de faire publier Le Temps des Leaders Pop, changer les chefs pour changer le monde. Vous allez découvrir ses conseils. Et on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. Il s'agit aujourd'hui d'Alexandre Ruiz, cofondateur de Où Former. Il a des postes à pourvoir aussi. Voilà le sommaire des emplois pour vous. A tout de suite.
BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute.
Des postes à pourvoir, je le disais, dans une entreprise qui va nous rendre sains. Bonjour, sain de corps et d'esprit. Bonjour Sébastien Bécard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, pour démarrer cette année, on a pris des bonnes résolutions. On s'est éclaté pendant les fêtes. Et maintenant, bon, il faut y aller, il faut un peu se restreindre et puis reprendre la forme. Hein. C'est ce que vous nous proposez. Alors, vous avez des postes à pourvoir. On va y venir, une trentaine, je l'ai dit. 800 entreprises clientes. On va d'abord donner la carte d'identité de l'entreprise pour démarrer. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent sur BFM Business Radio ou TV, sache qui vous êtes. Vous êtes donc le président de Gymlib. Date de création, on va faire simple, télégraphique.
2013, il y a bientôt 10 ans.
D'accord. Nombre de collaborateurs?
On est 80 aujourd'hui.
Le siège de l'entreprise?
On est à Métro Voltaire à Paris, dans le 11e.
Très bien. Et aujourd'hui, votre concept, et c'est toute l'originalité, c'est de proposer aux entreprises.
Exactement.
De vous confier leurs salariés pour qu'ils aient la forme.
Exactement. On encourage l'activité sportive des salariés avec un modèle assez révolutionnaire où on propose un abonnement unique qui permet d'accéder aux 4000 infrastructures sportives partout en France, sans aucun engagement.
Et ça va de quoi à quoi? Le sport, je parle de, on peut pratiquer quel sport avec vous?
Vraiment tous les sports, y compris les sports les plus insolites, comme la chute libre par exemple, ou même le surf en ville.
Dans l'entreprise.
Mais la plupart du temps, non, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller faire du sport dans les infrastructures qui existent. Ouais. Ça va du foot au tennis, au yoga, et tous les sports, le fitness évidemment, les salles de sport. Et ça peut aller jusqu'à des centres de golf, des parcours, etc.
Alors c'est un, on donne pas le chiffre d'affaires, mais c'est une entreprise en progression, en croissance.
Oui, on peut même, enfin voilà, on a dépassé les 20 millions de chiffre d'affaires cette année.
C'est pas mal, ouais, c'est ouais. Bien.
Pendant la crise, effectivement, ça a été une période particulièrement compliquée.
Ah oui, la Covid n'a pas permis d'aller dans les salles de sport, voilà. C'est sûr.
Mais depuis, ça repart fort, parce que c'est une préoccupation grandissante justement des entreprises, de se soucier du bien-être, de la santé physique et mentale, comme vous disiez, de leurs salariés. Avec le confinement qui a développé des sentiments d'isolation, du stress, pas mal d'anxiété. Et donc pour créer de la cohésion entre les salariés, pour améliorer la santé mentale et physique, eh bien les entreprises de plus en plus se tournent vers des solutions qui permettent d'avoir des salariés.
En fait, Sébastien Bécard, si je comprends bien, vous avez reporté le projet initial était en direction du public, du grand public,
ouais.
Hein, comme on dit.
Et ça, c'est fondamental parce que...
Mais vous l'avez reporté sur les entreprises, pourquoi?
Ouais. Historiquement, c'est comme ça qu'on a commencé, on s'est tourné vers le grand public, et puis on s'est rendu compte des deux freins fondamentaux qu'il y a à la pratique sportive. Le premier frein, c'est celui de la motivation. On a tous des bonnes résolutions, comme en ce moment en janvier, et puis pas forcément des motivations qui perdurent dans l'année. Et donc, il faut trouver les leviers pour faire que les gens soient motivés à faire du sport. Et le deuxième frein qu'il fallait qu'on lève, c'est le frein financier. On n'a pas tous 100 euros tous les mois à mettre dans du sport. Et
surtout, on n'a pas forcément les moyens mensuellement.
Exactement. Et donc, l'entreprise, en fait, c'est un terrain de jeu idéal pour lever ces deux freins. D'une part, parce qu'on fait cofinancer le service, soit par les RH, soit par les CSE, qui ont des budgets pour ça. Et l'autre sujet, c'est la motivation.
Ça, c'est la bonne idée, ça.
Exactement. Et ça, c'est le vrai sujet important. Et le deuxième sujet, c'est la motivation. Et en entreprise, on a toujours... les RH, des collègues, etc., qui vont encourager la pratique sportive. Et on est souvent motivé par des collègues à pratiquer le sport. Et donc, ça permet l'un et l'autre d'avoir des gens qui font beaucoup plus de sport en entreprise.
Oui, et mine de rien, un peu comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, vous avez créé le plus grand réseau sport
et bien être de France.
Exactement.
En quelques années.
Exactement. C'est vrai que...
Sans être propriétaire de salles.
Exactement.
Sans être vous-même.
Les grands réseaux de salles, c'est 2 à 300 salles en France. Aujourd'hui, Gymnim, c'est 4000 infrastructures sportives. Donc, on ne les possède pas. On a investi dans aucune des salles de sport. Et pour autant, on a le plus grand réseau de salles de sport. Et donc, une réponse qui, a priori, convient bien aux entreprises qui veulent proposer un avantage intéressant pour les salariés qui sont en déplacement régulièrement ou qui font du télétravail et donc qui sont pas forcément toujours au siège où il peut y avoir une salle de sport, etc. Donc c'est une réponse vraiment globale qui convient aux entreprises basées partout en France.
Oui, et ça intéresse quel type d'entreprises ? Les grandes, les petites, les moyennes ?
Alors,
jusqu'à présent.
Ouais, le cœur de cible, c'est toutes les entreprises déjà qui veillent à leur marque employeur. On veut, dans une ère où les talents, il faut les attirer, il faut les retenir, donc toutes les entreprises qui veillent à offrir la meilleure expérience à leurs collaborateurs, pas juste un job et un salaire, mais aussi une expérience globale. Mmh. Et ça fait donc toutes les entreprises typiquement comme le cabinet de conseil, les start-up qui veulent offrir la meilleure expérience en général se dirigent vers Gymlib. Après, on cible aussi les grands groupes qui ont des problématiques pour offrir le même type de bénéfices, pas que au siège, mais partout en France.
Oui, et puis j'ai vu qu'il y a en plus le choix. Dans les sports, hein, toutes les disciplines existent
ouais.
dans votre plateforme.
Typiquement, l'escalade qu'on voyait peu il y a 10 ans,
ouais.
aujourd'hui en France, ça cartonne. Il y a, dans les grandes villes, énormément de salles d'escalade se créent.
On ne va pas escalader les immeubles quand même de la Défense.
Non, mais c'est intéressant parce qu'à l'époque, l'escalade, c'était vraiment des voies, ça fait monter 13 mètres. Là, aujourd'hui, il y a des blocs, donc c'est pas très haut, ça fait 3-4 mètres de hauteur, donc pas besoin de locaux forcément immense, et on peut faire de la pratique facile, parce qu'un bloc, on n'est pas assuré, etc. Donc c'est...
Formule
au choix, il y en a vraiment pour tous les goûts, et c'est ça, je pense que ce que souhaitent les entreprises, c'est que ça réponde au maximum des envies. Il y a des gens qui souhaitent faire du sport, juste qui préfèrent aller courir dehors, on a une solution pour eux.
Alors comment vous avez résolu le premier problème, vous disiez, quand vous avez commencé, vous êtes attaqué au grand public, ça n'a pas bien fonctionné, et vous avez eu la bonne idée d'aller vers les entreprises, et là vous cartonnez maintenant.
Ouais, exactement.
Le premier frein, vous disiez, c'est l'envie. On a tous envie de surtout comme vous le disiez en début d'année, de faire du sport, de prendre des résolutions, maigrir, être musclé, etc.
Exactement. Ben, les freins, notamment au début, quand on voyait les entreprises, c'est pas forcément mon sujet en tant que.
Oui, c'est pas le rôle de l'entreprise.
C'est aller voir le CSE. Au début, c'était ça un petit peu le. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on voit que non seulement c'est un sujet de santé, de qualité de vie au travail, donc c'est une préoccupation des DRH, mais en plus c'est un sujet de marque employeur, c'est un sujet de cohésion et d'engagement des équipes. Ouais. Et donc tout ça, ce sont des sujets de l'employeur et non pas que simplement du CSE. Et petit à petit, et puis on le voit dans le reste de l'Europe, dans le monde, ce type de service est bien plus encore déployé qu'en France. Et on voit bien que en France aujourd'hui, ça y est, les conditions de vie au travail sont un sujet majeur.
Oui, et c'est un abonnement unique.
Tout à fait. C'est un abonnement qui est unique. Sans aucun engagement.
Et sans aucun engagement, c'est ça l'originalité.
Voilà, exactement. Effectivement, on a souvent en janvier, en février, on a envie de faire du sport et puis on peut décrocher en mars, avril ou même en août. Et dans ce cas-là, on met en pause l'abonnement ou même carrément on annule, on s'abonne et on peut reprendre quand on veut. C'est vraiment important que ça réponde au mieux aux attentes des salariés. Et aux attentes des consommateurs.
J'ai vu ici, on peut aller sur votre site, on peut découvrir tout ça grâce à des challenges, des contenus exclusifs, des lives, des ateliers, des applications et un fil d'actualité dédié aux sociétés. Alors parlons, on est là pour essayer de vous aider à recruter, c'est notre but, dans le club Média RH. Qui recherchez-vous ? J'ai dit 30 postes.
Alors nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de continuer à renforcer et améliorer l'expérience utilisateur. Oui. Donc, on a à peu près un tiers de l'entreprise, ce sont des développeurs, c'est de la tech. Donc on continue à rechercher des développeurs. Le marché des développeurs est compliqué. Il y a beaucoup de startups qui ont levé beaucoup d'argent et qui recrutent des développeurs. Donc ça fait partie des talents qu'on recrute aujourd'hui. On recrute aussi beaucoup de commerciaux, à la fois des chasseurs comme des CSM qui sont au contact de nos clients. Et puis aussi des postes de data analystes qui ne sont pas faciles à trouver aussi.
Donc, des postes à pourvoir dans vos locaux. On le répète, à Paris.
Oui, dans nos locaux, sachant qu'on a une politique de télétravail qui est assez souple. Certains salariés habitent à Barcelone, chez Gymlib. Certains salariés habitent à Montpellier.
Oui.
On peut habiter à peu près partout, mais on aime bien effectivement que, à un rythme assez régulier, les gens se retrouvent à Paris. Encore une fois,
au siège, à l'entreprise.
Oui, au siège d'entreprise.
Pour la motivation. Voilà.
Oui, l'engagement.
Recréer le lien, créer le lien, ne pas le perdre.
Exactement.
Alors, l'avantage de vous rejoindre, quelle est, question classique, on a bien compris, quelle qualité vous attendez chez les candidats ? Est-ce qu'il y a des valeurs à partager particulières ?
Alors, On me demande souvent si on recherche que des candidats qui font du sport. Non, pas particulièrement. C'est
ça. Est-ce qu'il faut être sportif
non,
c'est pour postuler?
Non, c'est pas du tout quelque chose qu'on recherche particulièrement. En revanche, on cherche des gens qui sont en adéquation avec nos valeurs. On en a 8, je vais pas toutes les citer, mais en tout cas, dans les valeurs qu'on cherche, il y a l'ambition, l'humilité, l'optimisme, on en parlait juste avant, et l'esprit critique aussi. Mmh. C'est 4 valeurs importantes de l'entreprise.
Est-ce que vous avez les dernières questions? Dernière question. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? On est là à parler de recrutement. Vous avez les sous? Vous avez les...
Oui, bien sûr, on a les moyens de notre ambition. On a, il y a 6 mois, réalisé une fusion avec un acteur allemand qui fait la même chose que nous, qui est à peu près 4 fois plus gros que nous, qui est leader en Allemagne. Donc aujourd'hui, donc c'est le groupe iGym, et avec le groupe iGym et Gymlib, ça fait iGym. 150... iGym, voilà, et Gymlib, ça fait 150 millions de chiffre d'affaires. On est sur une croissance de l'entreprise qui est vraiment importante. Et donc, oui, bien sûr, on fera ces recrutements cette année.
Vous avez ce qu'il faut. Vous restez avec nous?
Bien sûr, avec plaisir.
On va continuer à vous faire découvrir un livre d'une auteure qui est dans notre studio avec Nadège Joyot, qui est notre chroniqueuse RH, Le temps des leaders pop.
BFM Business, le club média RH, décryptage RH.
Bonjour Nadège.
Bonjour Alexandre, bonne
année. Tous nos voeux.
Très bonne
année. Vous êtes notre petit chaperon blanc.
Oui, alors je vous ai pas apporté des galettes et de la crème, je vous ai apporté un très joli essai qui s'appelle Le temps des leaders pop.
Alors il y a un sous-titre, Le temps des leaders pop, c'est Marion Dariotor, qui est dans notre studio, qu'on va découvrir dans quelques minutes. Le sous-titre, c'est Changer les chefs pour changer le monde.
Vaste programme.
C'est ambitieux.
Oui, alors c'est un ouvrage qui vient de sortir, puisqu'il sort cette semaine aux éditions de l'Aube, écrit par Marion Dariotor. Vous allez me dire encore un livre sur le leadership. C'est vrai, il y en a beaucoup. Mais le sujet est central, le sujet est sans fin et le sujet n'est pas résolu. Alors surtout, dans un monde où le politique, les institutionnels sont complètement désavoué par les citoyens, notamment français, mais pas que, voire moqué. L'entreprise est une valeur refuge. Et puis finalement, elle est le dernier bastion de confiance et d'espoir. Sauf que du coup, les leaders, les dirigeants de ces entreprises sont très attendus. Les injonctions se multiplient. Alors, c'est infini. Quel rôle, quelle posture, quel style, quelles paroles doivent-ils adopter? Sont-ils des activistes désormais? C'est tout ce dont il est question dans cet ouvrage de Marion Dariotor. Je précise que Marion Dariotor est fondatrice et dirigeante du cabinet The Arcane, un cabinet de conseil donc qui s'intéresse aux dirigeants, qui conseille les dirigeants des plus grandes entreprises comme un peu plus petites. Et elle est également présidente du think tank Entreprise et Progrès, donc sur toutes ces problématiques. Dernier petit point avant de donner la parole à Marion, la saveur de cet essai, c'est que vraiment il mélange le parcours d'une dirigeante elle-même. C'est une dirigeante qui s'est cherchée, qui a une mue, qui est toujours dans la quête d'être un vrai le leader qu'elle souhaite être. Et d'autre part, c'est un livre qui s'appuie sur ce qu'elle a vu auprès de ses dirigeants.
Alors,
voilà
pour les belles introductions, très élogieuses et longues.
Mais c'était nécessaire.
Bon, on est ravis de vous recevoir, bien sûr. Bonjour, madame.
Merci de me recevoir.
Alors, vous êtes donc, vous êtes chef d'entreprise également.
Oui, chef d'entreprise.
Fondatrice.
D'un cabinet de conseil en communication.
Vous recrutez, au fait, au passage?
On recrute.
Ah, bah tiens.
Au passage, voilà.
Bah, écoutez,
on forme et on veut faire du sport à nos collaborateurs. Donc, je suis au bon endroit.
Et est-ce qu'on peut bosser à Montpellier et à où déjà? Et à Barcelone.
On n'y est pas encore.
Alors, on va faire d'une pierre deux coups. On va en parler après de vos recrutements, c'était pas prévu, mais alors ce titre d'abord, le temps des leaders pop, c'est quoi un leader pop?
Un leader pop, c'est un leader qui se met au centre de la société, au centre du monde, au centre de son entreprise.
Non mais pop, c'est pop musique.
Pop, ça vient effectivement, le concept vient de la pop culture, du pop art. Et c'était
les années 70.
Exactement. Et en fait, c'était intéressant ces courants artistiques parce qu'ils ont été popularisés justement parce qu'ils étaient en prise directe avec la société, notamment la société de consommation. Bah, le leadership et le pop leadership, c'est un petit peu la même chose. C'est comment le leadership doit se mettre en prise directe avec la société pour se réinventer.
C'est pas le cas aujourd'hui.
Pas assez. C'est-à-dire que pas assez parce que le monde change.
Ouais,
en fait,
ouais.
Nadège l'a très bien dit. Peut-on être le même leader aujourd'hui qu'avant? La réponse est non, parce que tout simplement le monde change et que l'entreprise devient une valeur.
Et qu'est-ce qui a changé alors?
Qu'est-ce qui a changé? Et tout change. Le sens, le rapport au travail, la quête de sens, le changement climatique, la façon dont on a envie de bosser.
On leur demande d'embrasser tout.
Exactement. Et donc le leader, il se retrouve questionné et
dans l'obligation
d'être plus populaire, plus ouvert et plus politique.
Alors, Alexandre, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase de Jacques Chirac qui moi m'a beaucoup amusé parce qu'elle est citée dans l'ouvrage de Marion Dariotor. Un chef, c'est fait pour cheffer. En fait, ça c'est mort, hein, on l'a compris. Donc du coup, vous nous avez défini ce que c'était que le leader pop. Donc pop pour populaire, ouvert politique.
Et politique.
Politique, donc très engagée. On pourrait citer comme leader pop? Alors moi, me vient souvent à l'esprit Michel-Édouard Leclerc. Alors je le cite d'autant plus que c'est un homme qui n'est pas très susceptible, qui ne va pas nous faire d'ennuis, alors mentionnons-le. Est-ce que Michel-Édouard Leclerc est un leader pop?
Oui.
Fond sur la forme.
Oui, est-ce qu'il est cité dans votre livre?
Il n'est pas cité, mais j'aurais dit c'est une erreur.
Ouais.
C'est une erreur, merci Nadège. En fait, il est pop, pourquoi? Parce qu'il est populaire.
Ouais.
Tout le monde le connaît. Les Français connaissent Michel-Édouard Leclerc. Alors c'est vrai que son nom est sur
Il passe tout le temps à la télé en plus. Il est tout le temps interviewé.
Il n'est pas avare de son temps.
Ouais.
Il est ouvert parce que ça a été le premier dirigeant à ouvrir un blog pour partager ses idées il y a des années. Et il est politique parce qu'il prend à bras le corps des sujets politiques du bien commun qui sont notamment le pouvoir d'achat. Vous me direz, c'est normal, c'est son job. Mais moi, je le crois plutôt sincère.
Oui, alors moi, mais justement, j'ai quand même une petite limite à ça. En fait, on leur demande quasiment, si on vous lit, d'être des hommes politiques, des hommes publics, de parler un peu à tout va. Leur job numéro un, c'est quand même la bottom line. Est-ce que c'est vraiment leur job d'aller prendre part à tous les débats, conversations?
Bonne question.
La réponse est non. C'est pas possible. Ils ont, comme vous le dites, un job à délivrer, une bottom line. Donc, à un moment donné, un patron qui est que dans les médias, qui est que en mode d'exposition, c'est compliqué. Et on se pose des questions. La réponse est non, et en même temps c'est difficile parce qu'ils ont de plus en plus d'interpellations. Vous l'avez dit, l'entreprise devient la valeur refuge, donc ce qu'on voit émerger, c'est le patron boussole. Le patron boussole, c'est le patron qui donne des interviews dans les médias, qui va décrypter le contexte politique et autres.
L'actualité,
parce que nos leaders politiques engagent un peu moins les citoyens. Donc on attend du dirigeant qu'il décrypte ce qu'il se passe, parce qu'on lui fait confiance, et pour autant il ne peut pas tout faire, donc j'ai toujours tendance à dire qu'il faut qu'il choisisse ses sujets.
Et alors changer les chefs pour changer le monde, est-ce que c'est à eux, les chefs d'entreprise, on a compris?
Ouais, oui, on est sur les chefs d'entreprise.
Ben oui, on est sur les chefs d'entreprise.
On a dit que les autres, ils étaient...
Voilà,
ils
n'ont pas la bonne mission. Alors, en quoi est-ce qu'ils peuvent changer les choses?
Ils peuvent changer.
Et qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? D'abord, à qui est destiné ce livre? C'est à eux?
Ce livre est destiné plutôt aux chefs d'entreprise.
Voilà.
Parce que, en fait, moi, dans mon observation avec mes clients et dans mon think tank de dirigeants, Entreprise et Progrès, je discute beaucoup avec des dirigeants. Et ces dirigeants me disent, mon Dieu, je suis face à plein d'interpellations de la société, tout le temps. Guerre en Ukraine, avortement aux États-Unis,
Covid.
Et en fait, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois me comporter? Le rapport des jeunes au travail, les ONG, les militants, les activistes, c'est énorme par rapport à un dirigeant qui a appris à gérer son entreprise de façon plutôt classique. Et donc ce livre, il est né d'un questionnement aussi très personnel pendant le Covid, où je me disais, mais moi-même en tant que chef d'entreprise, comment je me réinvente tout ce que j'ai appris dans les bouquins de management, de leadership ou en école de commerce, est-ce que c'est encore valable? Et on a beaucoup parlé pendant le Covid du monde d'après, je ne sais pas si vous vous souvenez, on ne parlait que de ça à un moment donné, et donc la question c'était de se dire, pour aborder ce monde d'après, qui est quand même le monde d'aujourd'hui, est-ce que les leaders peuvent être les mêmes ou pas? Et je pense qu'il y a quelques évolutions à faire.
Neige joyeux.
Oui, on va les appeler les primo dirigeants, hein, ceux qui accèdent. Mmh. Donc ils avaient déjà un rôle important avant, mais ils arrivent dirigeants. Quel est le mauvais réflexe? Le premier conseil du coup que vous donneriez? Est-ce qu'on peut parler des 100 jours d'un dirigeant comme on parle des 100 jours d'un président?
Oui, les 100 jours d'un dirigeant existent. D'ailleurs, souvent, quand un dirigeant prend ses fonctions, il travaille avec son équipe sur ses 100 jours. Et c'est assez intéressant parce que ces 100 jours, moi, ma recommandation pour ces primo-accédants, c'est véritablement qu'ils soient sur le terrain, qu'ils descendent dans l'arène. Alors que souvent, donc qu'ils aillent à la rencontre de tous les jobs et de toutes leurs équipes. Souvent, ils ne le font pas. Ils restent enfermés dans leur bureau.
On va demander à notre invité, Sébastien Bécard, excusez-moi, je vous interpelle.
Non, bien sûr.
Est-ce que je voyais hocher de la tête? Ça veut dire que vous êtes d'accord?
Non, mais effectivement...
Votre témoignage. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes président de Jim Lib et que vous avez 30 postes à pourvoir. Voilà la raison pour laquelle vous êtes là.
C'est vrai. Et en fait, moi, je suis un président fondateur aussi. Donc, je n'ai pas ces fameux 100 jours où j'arrive, je dirige l'entreprise. Non, je la dirige depuis le premier jour parce que je suis fondateur.
C'est une bonne...
Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que là, on a fait une fusion. Et aujourd'hui, je ne suis plus le seul à diriger parce qu'il y a une entreprise qui nous a racheté. Et c'est intéressant, cette façon. Et donc, vraiment, j'acquiesçais sur le fait de comprendre ce qui se passe sur le terrain pour avoir une crédibilité et avoir une meilleure légitimité, parce que le patron est descendu, il a vu comment on travaillait, il nous a écouté aussi, Parce que dans le manager qu'on attend aujourd'hui de chef d'entreprise, il y a l'écoute qui est aussi importante. Et je pense que les salariés apprécient ça pour avoir cette légitimité.
Dans le cas d'une fusion, c'est très important.
Vous avez tâtonné, d'ailleurs, pour trouver votre place et votre style de leader ?
Énormément. En fait, on a cofondé l'entreprise avec Mohamed Tazi et on était chez Deloitte à l'époque, un cabinet de conseil. Et un cabinet de conseil, comme Deloitte, ne fonctionne absolument pas comme une start-up. Et donc, les premiers salariés qu'on a eu à manager au départ ne comprenaient pas notre façon de fonctionner. Nous ne comprenions pas la leur. Et ils nous ont dit, mais on n'a pas signé chez Deloitte, on a signé chez Jimlib. Comment tu nous manages ? Donc, on a été très mauvais au départ dans notre capacité à diriger, etc. Et puis, avec le temps, on a rencontré aussi des gens qui nous ont aidés à comprendre c'est quoi la nouvelle façon de diriger une entreprise. C'était plus facile.
Merci Nadège Joyot. Vous restez avec nous. Vous reviendrez avec un autre bouquin, Petit Chaperon Blanc. Et non, merci à vous, merci. Bien sûr, Marion Dariotor, pour votre livre. C'est aux éditions L'Aube.
Exactement.
C'est ça. Ça vient de paraître. Ouais. Vous restez avec nous. On a encore une séquence, bien sûr, et c'est lié. Tout est lié dans cette émission avec des postes à pourvoir. La start-up qui cartonne et qui recrute.
BFM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute.
Voilà, je suis ravi de vous présenter donc le chef d'entreprise en question, qui lui, vous sentez dans la culture pop, vous, chef pop.
Oui, pour l'instant d'une petite équipe, mais effectivement.
Alexandre Ruiz.
C'est un sujet.
Il y a plein de tailles.
Alexandre Ruiz, qui est cofondateur de Ou Former, c'est simple, Ou Former. Il manque le point d'interrogation, presque.
Oui, c'est ça, oui, effectivement. Hein? Mais c'est effectivement, Ou Former, le sujet, c'est répondre à la grande question des RH. On le voit, ils sont sollicités sur plein de choses, la qualité de vie au travail, la formation de leurs équipes, la montée en compétences de tout le monde. Il y a une chose incroyable en 2023, c'est qu'on peut réserver à peu près n'importe quoi en ligne, mais trouver une formation, c'est très compliqué.
Alors, vous êtes installé à Bordeaux, le carte d'identité, c'est quand on dit start-up, c'est vraiment une start-up.
Ah oui, tout à fait.
Elle est de l'année.
On a créé courant 2022.
Voilà.
À moins d'un an.
C'est le bébé. Vous n'avez pas encore un premier anniversaire, si je comprends.
Exactement.
Vous n'avez pas encore soufflé les premières bougies. Vous êtes trois collaborateurs dans l'entreprise. Le siège est à Bordeaux. Et donc, vous êtes. C'est une plateforme. Vous êtes. Alors, vous présentez, c'est astucieux, vous dites, on est le Doctolib de la formation.
Oui.
Ça veut dire quoi ?
Parce que c'est l'idée. En fait, on se rend compte que réserver une place de formation, c'est encore fait de manière archaïque. Il faut appeler tous les organismes de formation un par un pour savoir quand a lieu les prochaines sessions et combien ça coûte, demander des devis, etc. Nous, on a référencé l'ensemble des places encore disponibles des organismes de formation de
24 France. Heures sur 24, elles sont
oui, c'est
réactualisées. C'est un site, c'est une plateforme.
C'est une plateforme, on est connecté avec nos partenaires, on a plus de 280 organismes de formation partenaires à ce jour,
oui.
Et on référence un peu plus de 200 000 places là, sur 2023 disponibles, et on permet aux RH d'inscrire leurs collaborateurs en formation en 10 secondes. Le temps moyen pour un RH jusque-là, c'est 7 heures pour trouver une place de formation disponible.
Ah oui. Alors que là, il suffit de cliquer sur le bouton, ils ont tout en live,
toutes les places
toutes les disponibilités dans tous les domaines
exactement,
de formation.
Exactement, avec la localité, le prix, la date, la durée de la formation, le contenu évidemment, et en deux clics, on inscrit son ou ses collaborateurs à la formation.
Alors Alexandre Ruiz, comme vous l'avez dit, vous êtes né il n'y a pas encore un an, première bougie n'est pas soufflée. Est-ce que ça a bien démarré ? Est-ce que ce concept plaît ?
Oui, alors effectivement, on a commencé en étant deux au départ, avec nos fonds propres, et moins d'un an après, on est finalement le troisième organisme de formation de France en termes de taille, en termes de disponibilité.
Ouais, sans être organisme de formation.
Sans être nous-mêmes organisme de formation. Voilà. On fédère
plus
de 180 organismes sur le territoire. Et effectivement, les retours utilisateurs sont excellents. Il y a énormément de choses à faire chez Ou Former. Ouais.
Alors, 5 postes à pourvoir, qui recherchez-vous ? Est-ce que ce sont des postes à pourvoir à Bordeaux, d'abord ?
Alors,
siège.
On est flexible aussi. Donc, évidemment, si les gens sont à Bordeaux et rejoignent nos
équipes
en présentiel, tant mieux. On travaille aussi beaucoup à distance. Les postes que nous allons chercher, c'est finalement le noyau dur de notre
Bien
première
sûr.
Équipe. Donc, on va chercher des postes en développement commercial.
Alors, j'ai vu un poste de responsable commercial.
Tout à fait.
Responsable commercial grand compte.
Oui, tout à fait.
Et enfin, responsable marketing.
Marketing, communication, tout à fait. Et après, on est aussi à la recherche de profils un peu tech, évidemment, puisqu'on est une start-up tech. Donc, du développeur full stack, du développeur même junior. Une personne plutôt sédentaire, administrateur
Bordeaux.
Des ventes, là, qui serait à Bordeaux, oui, tout à fait.
Quelle qualité faut-il pour vous rejoindre ? Est-ce qu'il y a un point commun ?
Oui, alors déjà, l'esprit d'aventure, hein, parce qu'effectivement, on est sur une entreprise vraiment en démarrage, en croissance, mais en démarrage, et aussi beaucoup d'agilité, parce qu'on est évidemment, comme toute petite structure, on n'a pas de process extrêmement cadré. Et donc, on évolue avec l'arrivée de nos collaborateurs. Et donc, il faut savoir être agile et s'adapter. Ouais.
Alors, question classique, encore une fois, dans notre émission, on a bien compris qui vous recherchez, plutôt des hommes et des femmes expérimentés, j'imagine.
En tout cas, qu'on a envie. Fait d'avoir de l'expérience, justement, là, l'idée, c'est de construire quelque chose de nouveau. Ça n'existe pas, ce qu'on fait. Donc, des gens qui ont de l'expérience et qui font la même chose depuis des années ont peut-être un peu de mal à inventer de nouvelles choses. Donc, on va plutôt chercher l'envie et ce goût de l'aventure et de créer de nouvelles choses.
Ouais. Même question que j'ai posée tout à l'heure à Sébastien Bécard, qui, lui, est président de Gymlib. Est-ce que vous avez les moyens de votre ambition? Est-ce que vous avez les sous pour payer ceux que vous souhaitez embaucher?
Oui, et sinon, évidemment, on les...
Non, mais,
Non, mais c'est un vrai sujet. Bien sûr, alors, les postes qu'on cherche à pourvoir, forcément, pour ces postes-là, on a le budget pour. L'objectif, quoi qu'il en soit, en rejoignant ou former, c'est construire aussi le développement de l'entreprise et permettre de nouveaux recrutements que, pour l'instant, nous ne pouvons pas nous offrir. Mais... effectivement, l'objectif, c'est de faire durer nos équipes sur la durée, bien sûr.
Alors, je vous souhaite bonne chance. Merci. C'est bien, c'est la première émission de l'année. On démarre l'année avec vous. On est tout cœur. On espère que cette émission va vous aider à recruter et à vous faire encore mieux connaître. Je vous remercie d'être venu. Je remercie également l'auteur invité de Nadège Joyot. Vous êtes, je rappelle on peut rappeler le livre. Là, on peut le montrer. C'est Nadège qui le montre.
Je ne sais pas si sur l'autre caméra, c'est formidable.
C'est Marion Dariotor, auteur de Le Temps des Leaders Pop. Je remercie également Sébastien Bécard. Bonne chance pour les 30 postes à pourvoir. Et j'en profite, puisque c'est la première émission de l'année, pour remercier. Vous transmettre tous mes vœux à vous tous qui nous suivez, bien sûr, et à vous tous et à l'équipe que je remercie. Annalise, Florian, Timothée, Alban et Jean-Michel. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et on est ravis d'être avec vous en 2023 pour de nouvelles aventures. Salut, bon week-end.
BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.